Tout pour investir, les marchés et vous.
On prend ses profits et on laisse filer ses pertes. Nous allons parler de l'effet de disposition avec vous, cher Julien. Julien Nebenzahl, senior advisor chez Advise. Car oui, vous êtes notre coach en finance comportementale. Qu'est-ce que c'est que l'effet de disposition et pourquoi ceux et celles qui nous écoutent ce matin doivent se sentir particulièrement concernés ?
Alors, l'effet de disposition, alors c'est un terme qu'il faut peut-être justement préciser. Ça vient de la notion de disposer de ses actifs. C'est-à-dire que quand on a des investissements, en disposer, ça signifie par exemple qu'on peut les vendre, soit pour récupérer l'argent, soit pour faire un autre investissement. Donc en fait, l'effet de disposition, c'est lié à une opération qu'on va faire sur un actif qu'on a. C'est ça que ça veut dire. Et en quoi c'est important pour tout le monde ? Eh bien, parce que cet effet de disposition, tout le monde y est soumis. C'est impossible de ne pas y être soumis. Après, ce sera à des degrés différents selon justement l'expérience, la personnalité, la volonté de progresser. Chacun pourra trouver une amélioration par rapport à ce biais. Alors ce biais, il a une origine académique. Il était connu par les boursiers il y a 30, 50 ans, mais les boursiers, on leur disait, ben oui, mais vous voyez quelque chose, vous entendez quelque chose, mais on n'a pas d'écrit là-dessus, on ne comprend pas. Alors c'est Daniel Kahneman, prix Nobel d'économie en 2002, qui a commencé à ouvrir bien la voie en écrivant que un individu n'a pas la même attitude selon qu'il gagne ou qu'il perd de l'argent. Il n'y a pas de symétrie en fait. Il y a d'un côté, je gagne et j'agis d'une certaine manière, de l'autre, je perds et j'agis d'une autre manière. Donc ça, c'est les travaux académiques, et c'est aller plus loin. Je voudrais citer par exemple, après je ne cite plus d'académiques.
Mais vous en citez David, autant que vous voulez, Julien.
David Hirschleifer, qui a écrit sur les biais comportementaux et qui a notamment bien décrit ce biais. Alors, ce fameux biais de confirmation, biais de disposition, qu'est-ce que c'est ? C'est quand on est face à des investissements et qu'on peut réaliser quelque chose, on va avoir tendance à vendre quelque chose sur lequel on gagne. Et si on a quelque chose sur lequel on ne gagne pas ou on perd, eh bien on va avoir tendance à ne pas faire cette opération. Alors, il y a plusieurs explications. La première, c'est un rapport au temps. Il faut bien savoir que quand on va vendre quelque chose sur lequel on a un profit, eh bien on va avoir une satisfaction qui est immédiate, puisqu'on réalise un profit. Et comme la satisfaction est immédiate, si je prends une expression populaire, un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ce qui est pris n'est plus à prendre, je l'ai, j'ai gagné. Mais regardez, le même raisonnement dans l'autre sens. Je vais vendre quelque chose sur lequel je perds. Donc là, on ne parle plus de satisfaction, on parle d'insatisfaction. Mais cette insatisfaction, tout de suite, ne me rapporte rien. Je peux la décaler dans le temps. Je peux dire peut-être demain, ça vaudra plus cher et je perdrai moins. Ce qui fait que le temps agit déjà comme un moteur de cette décision asymétrique entre le gain et la perte. Après, il y a les travaux de la finance comportementale qui peuvent nous éclairer sur les émotions qu'on va ressentir à ces moments-là. Quand on vend quelque chose qui est en profit, inévitablement, on a un sentiment de confiance, peut-être même de supériorité, ça arrive. On se sent, c'est une satisfaction qui donne une très bonne image de soi-même puisqu'on vient de réaliser un profit. Et en plus, on a cette notion d'avidité qui est pareil que nous avons tous, qui est de dire, je peux prendre ça, je le prends tout de suite. De l'autre côté, quand on est face à une perte qu'il faut réaliser, donc il faut disposer en quelque sorte, qu'il faut réaliser, d'abord, on va avoir un sentiment quasiment d'infériorité. C'est-à-dire, j'ai acheté quelque chose, ça n'a pas marché. Je ne suis pas bon. C'est une image de soi qui va être négative cette fois-ci. Et cette image de soi négative, bah finalement, on n'a pas tellement envie de la développer. Et c'est plutôt la peur de mal faire et de faire encore plus mal qui va l'emporter par rapport à l'avidité dans l'autre cas. Et quand la peur l'emporte, eh bien les décisions, ça on le sait, c'est pas besoin de faire de la finance comportementale, quand la peur guide une décision, elle est mauvaise conseillère et on va faire n'importe quoi. Donc ces biais que nous avons en général expliquent, sont des biais d'émotion, explique pourquoi nous sommes tous tentés de prendre plus vite des profits et plus tard des pertes. Mais il y a un troisième niveau, et qui celui-là explique encore plus pourquoi tout ça c'est mauvais pour le portefeuille. C'est la finance classique dit que les cours suivent une marche aléatoire. Alors je ne rentre pas dans ce détail académique, mais ça revient à dire que quand on regarde un cours à un jour donné, on ne peut rien dire sur le cours du lendemain. Or, la réalité, Alors, certains l'ont démontré, ce sont les analystes techniques de marché, mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas tant que ça une marché aléatoire, puisque les cours suivent des tendances. Pendant un certain temps, bien sûr, et ces tendances changent, mais il n'y a pas de marché aléatoire. Il n'y a pas une espèce de mouvement incompréhensible. Il y a une succession de tendances. Donc, quand je vends quelque chose sur lequel j'ai gagné, je vends quelque chose qui a monté. Et comme la tendance, elle est là, eh bien demain, j'ai une bonne probabilité que ça vaille encore plus cher. Donc je vais faire un profit, mais moindre que si j'avais attendu, à cause du fait de la tendance. Mais dans l'autre sens, si je ne souhaite pas vendre quelque chose sur lequel je suis en moins-value, c'est probable que cette chose ait baissé, donc soit dans une tendance baissière. Donc si je ne vends pas aujourd'hui, en me disant je vends demain, eh bien demain, du fait de la tendance, ce sera encore moins cher. Et c'est ce qui aboutit à une mauvaise performance des portefeuilles, puisque les tendances étant présentes et nous étant attirés par prendre un profit immédiat et surtout ne pas prendre une perte, les tendances viennent accroître cette mauvaise décision.
Il ne faut pas surfer les tendances.
On a après des conséquences de tout ça, je viens de la décrire en termes de performance, mais on peut revenir au niveau de l'émotion de l'individu pour vraiment rester dans le comportement. Premier élément, c'est la frustration. Parce que quand vous vendez quelque chose et que ça monte le lendemain, vous éprouvez une frustration. Mais quand vous ne vendez pas quelque chose que vous deviez vendre qui baisse et que ça baisse encore plus le lendemain, vous éprouvez à nouveau une frustration. Qu'est-ce qui se passe, pas pour tout le monde, mais pour quand même un certain nombre d'investisseurs? Eh bien, c'est la deuxième conséquence, c'est-à-dire qu'on regarde un portefeuille où parce qu'on a vendu ce qui a monté assez régulièrement sans vendre ce qui a baissé ou ce qui n'a pas marché, ben on se retrouve avec un portefeuille avec beaucoup de trucs qui ne sont pas très jolis, avec beaucoup de moins-value. Alors, là encore, le portefeuille qu'on va regarder, c'est presque une image de soi qui nous est renvoyée. Oui, évidemment, on a gagné de l'argent à côté, on s'en souvient, tout n'est pas mauvais. Mais il nous reste quelque chose sous les yeux qui n'est pas très, très positif, pas très enthousiasmant. Donc ça, c'est une deuxième conséquence relativement importante. Puis la troisième, alors que tout le monde ne rencontre pas, mais enfin, ça arrive, il faut le citer, c'est qu'ayant vu ce portefeuille où il reste finalement beaucoup de pertes pendant des semaines ou des mois, eh bien, à un moment, qu'est-ce qu'on fait? On décide classiquement de le liquider, de le céder, de ne plus le voir. Et c'est pas forcément une mauvaise décision, d'ailleurs. Et puis, d'une certaine manière, on repart à zéro. On refait un autre investissement. Ou on change d'approche. Très bien. Mais la conséquence négative, c'est que le plus probable, une fois qu'on a fait ça, c'est qu'on va oublier toutes les raisons qui nous ont amené là. C'est-à-dire qu'on va oublier qu'on a compris, qu'on a vendu trop tôt ce qui montait, qu'on n'a pas assez vite coupé ce qui baissait. Et donc, on a beaucoup de difficultés à appréhender ça et à progresser. Alors, vous me demandiez au début, est-ce que ça touche tout le monde? Je vous disais oui, mais il y a des gens qui surmontent très bien ça. Une manière de le surmonter, c'est d'en être conscient, c'est-à-dire de savoir que quand on veut prendre un profit, peut-être qu'il faut réfléchir, puis-je attendre un petit peu? Et quand on voit un investissement qui part pas très bien, on se dit, oui, mais si je vends pas, j'ai pas perdu, donc je vais attendre. Peut-être commencer déjà par réduire ne serait-ce que la ligne et commencer à avoir ces actions en connaissance de ce biais comportemental, ça va vraiment améliorer les performances financières générales du portefeuille.
Vous nous dites apporter un peu de gris. Tout n'est pas blanc ou noir. On doit ajouter un petit peu des nuances de gris.
Des nuances, exactement.
Merci beaucoup, Julien Nebenzahl. Son éclairage en finance comportementale sur ce qu'on appelle l'effet de disposition. Attention à ne pas prendre ses profits trop tôt et au contraire à laisser filer ses pertes. À retrouver en podcast et en replay sur notre application. Julien Nebenzahl de l'équipe d'Advice.